Éclectic, c'est votre podcast qui traite d'applications, d'écologie, de plein de trucs qui m'intéressent en fait. C'est ça, Éclectic. Alors, bienvenue à Éclectic et je suis Matt, alias Prof du Web, et je suis heureux d'enregistrer l'épisode 76. Au menu, aujourd'hui, on va parler de trucs pour les réunions, on va parler de trucs pour protéger votre famille, on va parler d'une étude italienne qui aurait l'air à tendance à dire que le divertissement à la télé a des effets néfastes hein, sur les gens, on va parler de Tesla qui prépare une nouvelle batterie durable, on va parler des Simpsons qu'on prédit l'avenir, et on va parler de services de livraison, on va parler de... compte Twitter qui serait des robots. On va parler de... J'ai plein de trucs. Ah oui, la famille de Louis de Funès, on va parler de ça. On va parler d'applications. Ouais, j'ai deux applications qui sont intéressantes. Bref, on a plein de sujets et on peut commencer maintenant. Quatre trucs pour rendre votre réunion virtuelle moins malaisante. Ben, avec les derniers mois de confinement pour lesquels on a fait beaucoup de visio, que ce soit en famille ou plus particulièrement en travail, on a découvert des trucs qui sont un petit peu plus adaptés maintenant pour nos rencontres virtuelles. C'est un article de Radio-Canada qui est vraiment super intéressant et qui donne quatre trucs vraiment simples pour améliorer vos rencontres. Ben d'abord, le premier truc, ça serait de ralentir le débit. C'est parfois très difficile pour les gens de prendre parole dans une réunion, surtout à cause des délais, hein, surtout à cause de la connexion Internet. Alors, ça peut donner des situations cacophoniques, des situations complètement inaudibles. Alors, c'est important de prendre le temps de ralentir le débit, de laisser la place, et beaucoup d'applications ont une fonctionnalité pour lever la main. Alors, le maître de cérémonie, la personne qui organise les rencontres, devrait prendre compte de ça et devrait aussi montrer l'exemple et ralentir. Deuxième truc qui est intéressant, la personne qui organise doit donner la parole, doit organiser la rencontre. C'est pas comme une rencontre physique où d'un geste, d'un regard, on peut passer la parole. Ben là, c'est un peu différent, faut vraiment le dire. Que penses-tu, Robert, de cette situation? Et toi, Paul, que penses-tu de... Et toi, Nadia, voudrais-tu ça? Alors, faut vraiment prendre ça à cœur quand on organise une rencontre, c'est-à-dire de... pas d'entertainer, mais au moins d'animer, puis de diriger les gens, ou en tout cas de leur laisser la place. Aussi, arrêter de faire autre chose. Hein, c'est la base dans les vraies rencontres. Et là, c'est encore pire parce que les gens voient pas le téléphone que j'ai en dessous de la caméra et pour lequel je peux aller voir sur Farmville si mes betteraves ont poussé. Alors, faut faire attention à ça aussi. Et puis, réserver du temps pour parler d'autre chose du travail. On le sait, les icebreakers, comme j'aime les appeler, vous savez, ces débuts de rencontres qui cassent la glace un peu, ces phrases qui cassent la glace, ces thèmes qui cassent la glace, il fait beau dehors, la salle est trop grande, des choses, tu sais, qui font que on n'arrive pas tout de suite sur le sujet, il faut les remettre dans le vrai moment et créer des liens d'empathie, créer des liens avec les gens avec qui vous vous rencontrez. Dans un monde de visioconférence, on a la tendance à aller vers l'efficacité à outrance. C'est compréhensible dans une certaine mesure parce qu'on essaye de se défendre du fait qu'on est à la maison en disant on travaille, alors faut faire attention, c'est sûr, on veut en donner plus, mais des fois on en donne trop et des fois on en donne pas du tout du côté humain lorsqu'on a des rencontres, alors faut faire attention par rapport à ça. Quatre trucs qui sont dans le site de Radio-Canada, quatre trucs pour rendre vos réunions virtuelles moins malaisantes. Family Safety, c'est une application qui avait été annoncée en mars dernier par Microsoft. C'est une application de contrôle parental pour la famille, ça s'appelle Family Safety. C'est maintenant disponible en avant-première pour certains, pour un petit nombre d'utilisateurs sur Android et iOS. Family Safety, ça permet, entre autres, de suivre la géolocalisation des membres de la famille, d'obtenir des statistiques sur le temps d'écran, ainsi que de fixer des restrictions. Ça permet aussi des fonctionnalités qui rappellent en fait ce qui existe déjà dans Google à travers Family Link, ce qui existe déjà dans d'autres. comme Microsoft, comme Apple. Quant aux utilisateurs, c'est les fonctionnalités qu'on retrouve chez Apple pour le temps d'écran. Fait que bref, ça vient de Microsoft. Je dis pas que c'est mieux. Je dis juste que on connaît un peu plus Microsoft pour certaines personnes et il y a des comptes qui existent. Alors, essayez cette application-là. Elle est multiplateforme. Ça pourrait être assez intéressant dans un temps où on devient tous beaucoup plus numériques de faire attention à ces choses-là et de suivre un peu ce que vos enfants font, même s'ils sont dans la pièce à côté. Une étude italienne qui a analysé les effets politiques du divertissement à la télévision. Ça vient directement d'Italie. Trois chercheurs ont mesuré sur une plage de temps d'une amplitude, ce qu'ils disent inédite, l'impact des chaînes Mediaset de Silvio Berlusconi sur leurs téléspectateurs en termes de capacité cognitive, de comportement électoral et de système de valeurs. Ils ont analysé ces trois facettes-là par rapport aux médias divertissement. Et ils ont étudié leur impact depuis 1980, à la date de la création de la chaîne, suivant le bouleversement du paysage audiovisuel italien, évidemment, quand c'était arrivé. Outre son pouvoir de nuisance intellectuelle et les biais politiques qu'elle induirait, la télévision du tout divertissement éroderait aussi puissamment chez les téléspectateurs le sens de l'engagement civique et de la responsabilité sociale. Cela est clairement montré pour ce qui est des individus et qui ont été précocement exposés. Alors, faible conscience politique jusqu'au désintérêt total, c'est ce qui semble ressortir de l'étude, attrait pour les partis centrés autour d'une personnalité charismatique et exigeant peu de leurs adhésions. Morale, individualisme, consumérisme, excusez, j'ai la misère à le dire, cynisme. Tous des biais présentement qui ont l'air à se répandre un peu partout. Alors, cette étude est intéressante. Je rappelle, c'est une étude. Elle peut peut-être mettre les bases pour une prise de conscience collective que la vie, c'est pas juste du divertissement tout le temps. Des fois, il y a des choses sérieuses. Des fois, il y a des choses qui nécessitent du temps. Et peut-être qu'on a comme oublié ça. Alors, j'ai trouvé ça super intéressant de vous relayer ça. Évidemment, l'article est beaucoup plus grand. Je vous le conseille fortement. Pas pire article, je vous conseille, pas pire. Tesla. Quand on parle technologie puis nouveauté, évidemment, on peut pas passer à côté de Tesla, SpaceX, Apple et ainsi de suite. Mais Tesla a déclaré qu'elle préparait une nouvelle batterie durable à faible coût pour mettre des véhicules électriques à égalité avec les prix des voitures à essence. Oui, enfin! Selon l'article qui est paru dans TechCrunch, Tesla, Elon Musk, a vanté l'amélioration à venir de la technologie de sa nouvelle batterie, allant jusqu'à doubler les prochaines conférences de la société. Allant même jusqu'à doubler la capacité au jour de la batterie. Maintenant, Reuters rapporte que le constructeur automobile prévoit dévoiler une nouvelle technologie de batterie avancée qu'il a développée et qui peut produire des sources d'alimentation pour ses véhicules électriques qui durent des millions de miles. Ça, c'est beaucoup de millions de kilomètres. Et peuvent être produits à bas prix, permettant aux constructeurs automobiles de vendre ses voitures au-dessous du coût du marché des voitures équivalentes à la combustion interne. La technologie de batterie sur laquelle ils travaillent comprend des versions à faible teneur en cobalt et sans cobalt de produits chimiques utilisés. Je comprends rien, mais ça a l'air vraiment intéressant. Ce que je lisais aussi dans l'article, c'est la production va être beaucoup plus rapide des batteries parce qu'ils n'auront pas besoin d'isoler chaque batterie entre elles, puis après ça, refaire une grosse batterie. Ça a l'air vraiment super intéressant et très prometteur. Ça, c'est une actualité de Tesla. Il y a peut-être des enjeux au niveau des actions quand c'est sorti. Bref, faut mettre ça avec une certaine perspective. Mais le fait que la durée de vie va augmenter, ça aussi, c'est super intéressant parce que ça fait juste comme éloigner la date de fin d'une batterie, ce qui fait que ça fait augmenter sa capacité dans le temps, ce qui fait que, de facto, une voiture électrique devient de moins en moins polluante sur le long terme. Hein? Faut se le rappeler. Alors, vraiment super intéressant cet article-là. Allez voir TechCrunch, c'est un classique. Faut toujours lire les articles de TechCrunch. J'ai vraiment hâte de voir les nouvelles Tesla modèle 3, Y, S et Alouette. pour beaucoup moins cher que ce que c'est maintenant, parce que présentement, c'est vraiment pas abordable. Les Simpsons prédisent l'avenir. Vous y croyez? Tous les événements qui sont devenus une réalité sous forme graphique, interactive, fort amusant, c'est DataViz qui a fait ça. Moi, je vous ai mis les deux liens. Je vous ai mis le lien de DataViz, du lien Twitter, en fait, sur lequel je l'ai trouvé. Et je vous ai mis aussi le lien sur directement sur le tableau.com, public.tableau.com. Il fonctionne plus. Mais bref, c'est tous les événements dans tous les épisodes où on a pu voir que ça s'était produit. Alors typiquement, des fois, il y a des annonces qui ont été faites, qui ont été rapidement, comme un épisode où ils ont prédit que le Super Bowl allait être... ils avaient fait une prédiction sur le Super Bowl, ça s'est révélé dans l'année même. Mais il y en a d'autres, des prédictions qui sont plus loin que ça encore. Il y a des prédictions comme, je vais en prendre une, là, Treehouse Horror 19, un épisode où la machine à voter a eu des problèmes. Ça s'est révélé en 2012 et ça avait été dit en 2008. Il y en a plusieurs. Il y a aussi Donald Trump, hein, on en parle souvent, là. Ça avait été dit en 2000, 19 mars 2000, et il a été élu en 2016. Bref, c'est super intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de prédictions qui ont été faites. C'est sous forme un petit peu plus ludique. Ça se voit mieux sur un ordinateur que sur un téléphone ou une tablette, je dois vous le dire. Et vous voyez toutes les prédictions quand elles ont été faites et vous voyez quand elles se sont réalisées. Il y en a quand même pas mal. Alors, après, on va faire comme avec Nostradamus. Ils ont tellement fait de prédictions qu'on peut prendre juste celles qui se sont faites pour dire, ben, des Simpsons, ils disent juste des vérités. Ben non. Faut faire attention, faut avoir du recul. Mais bref, c'est super drôle. Moi, j'aime les Simpsons. Et vous? Aimez-vous les Simpsons? Connaissez-vous Loop? Loop, là, c'est un service de livraison de produits zéro déchet. Ça s'étend aux États-Unis et là, ils veulent étendre ça en dehors des États-Unis et ça utilise des contenants réutilisables. C'est vraiment, vraiment bien fait et c'est pas des affaires en vrac, hein, qu'on peut acheter dans une épicerie qui sent le patchouli. d'acheter ça dans une épicerie un petit peu hétéroclite, bizarre, avec de la musique indienne et puis de l'encens. C'est vraiment quelque chose de new technology, de nouveau, qui vient de sortir, Loop, L-O-O-P. La plateforme, elle expédie des choses comme de la crème glacée, ben de la glace, dans des contenants métalliques, puis on peut les renvoyer ensuite. Si vous avez commencé à acheter des fournitures de base comme du shampoing, du dentifrice, pendant la pandémie, vous remarquerez que ben vous avez créé beaucoup de déchets supplémentaires dans votre maison. Moi, je l'ai remarqué, mais c'est pas juste dû à la pandémie, j'en ai acheté beaucoup de toute façon. Mais bientôt, vous pourrez également acheter des versions dans les emballages durables et réutilisables. Loop, la plateforme de style laitier. Auparavant, ici, il y avait des laitiers qui apportaient le lait à chaque maison, mais en France, il y avait sûrement aussi. Je me rappelle pas en France. C'est plus nord-américain, ça, ici. Ouais, les livraisons à la domicile, hein, il y a le pain, il y a le laitier. Historiquement, là, il y avait ça. En France, il y avait peut-être moins ça. Alors, vous pouvez peut-être pas comprendre la référence, mais bon. Bientôt, vous pourrez également acheter une version des emballages durables réutilisables Loop, des plateformes de style laitier, comme je disais, qui s'associent à de grandes marques pour offrir un abonnement à des produits courants, comme du détergent Tide ou des emballages réutilisables. Il étendra son service de livraison à travers les États-Unis et dès le début de l'été, il va commencer à aller voir ailleurs. Alors, surveillez Loop. Ça m'a l'air d'être une super belle promesse pour la réutilisation des produits, en fait, la réutilisation des emballages, et très prometteur. Et c'est très beau, hein. Graphiquement, moi, je suis assez sensible aux emballages, l'aspect graphique de tout ça, et c'est vraiment, vraiment beau. C'est un article qui vient de fastcompany.com. Près de la moitié des comptes Twitter pour ça à réouvrir l'Amérique pourrait être des bots. Il y a eu une énorme vague à travers tous les pays, je pense, hein, pour le déconfinement, puis ça s'avère être correct, mais il y a eu une espèce de lobby numérique qui s'est fait sur les plateformes et une énorme vague d'activités de robots sur Twitter depuis le début de la pandémie du coronavirus pour amplifiant la désinformation médicale a poussé à réouvrir les États-Unis. Alors, je sais pas si ça s'est fait ailleurs, mais l'article est choquant et... J'espère que les politiciens américains ne basent pas toutes leurs décisions sur leurs médias sociaux, mais s'ils le font, ils sont certainement biaisés, parce que les chercheurs ont découvert que les bots pouvaient présenter jusqu'à 60% des comptes Twitter qui discutaient sur le COVID-19. 60% de bruit en faveur d'une orientation ou d'une idéologie politique. Alors, faut faire attention, là, si on parle de COVID, mais on parlait avant d'élections, on parlait avant d'autres trucs. Où prendre ces sources d'informations? Ben, journaliste, hein, c'est encore bon, ça. C'est encore bon, même en 2020. C'est vraiment, vraiment encore bon, ça, jusqu'en 2020. Ça vous tente d'aller sur Fake Mars? On parlait de fausses nouvelles juste avant. La NASA veut vous payer pour vous isoler sur Fake Mars pendant 8 mois. Les candidats retenus passeront 8 mois en isolement avec une petite équipe internationale à Moscou, en Russie. Le but de cette mission, c'est une mission analogique pour aider la NASA à savoir plus sur l'impact physique, psychologique, que l'isolement peut avoir sur les êtres humains. Les recherches menées pendant cette période comprendront l'exécution d'opérations robotiques, ainsi que diverses tâches utilisant la réalité virtuelle. Ben, l'idée, c'est d'utiliser ces informations pour mieux se préparer à l'exploration Artemis sur la Lune, ainsi que la future mission sur Mars qui durerait encore beaucoup plus longtemps. On parle que même ceux qui iraient sur Mars, les premiers, ben, reviendraient pas. Alors, c'est important de choisir les bonnes personnes et pas avoir un gros con avec soi. Ah, vous savez, on est toujours le gros con de quelqu'un d'autre. Un robot tueur de coronavirus, ça vous excite, hein? Ouais, moi ça m'excite beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est même une idée que j'avais. Quand j'ai su que les rayons UV, UVC, avaient, c'est même utilisé hein, dans le milieu médical, avaient la capacité de tuer le virus, je me suis dit, je vais changer toutes les ampoules à la maison, je vais foutre ça, comme ça je vais être tranquille. J'aurais plus besoin de désinfecter. Mais il faut faire attention, parce que c'est très, très mauvais hein, pour les yeux des humains. C'est faut pas laisser être... sous ces rayons-là. Alors, il y a une compagnie qui a développé un robot, c'est Xenex, qui est capable de nettoyer des dizaines de pièces par jour. 5 minutes suffisent durant laquelle les rayons ultraviolets parcourent les surfaces afin de détruire toute présence de coronavirus, habituellement utilisé dans les hôpitaux pour tuer les agents pathogènes. Hein, je vous ai dit, ces matériels-là sont plus dans les hôpitaux habituellement pour stériliser certains outils. Ils sont toutefois extrêmement dangereux pour l'humain, je vous l'ai dit, et peuvent causer des dommages aux yeux irréversibles. Xenex Disinfection Service vous le dit, vous met en garde. C'est pourquoi il est fortement recommandé de vider les pièces, évidemment, de toute présence humaine, quand on passe ce petit robot. Alors, ça ressemble à un gros aspirateur, vous le placez, puis après ça, ça passe toutes sortes de rayons UVC, et ça désinfecte. Vraiment, vraiment super, super intéressant. Si on pouvait s'éviter d'avoir toutes sortes de produits, de papier, de chiffon pour nettoyer et que finalement juste un petit robot qui passe avec des piles rechargeables à, on va dire, à l'énergie solaire, ça serait vraiment, vraiment chouette. Je vous fais écouter une capsule que j'ai vue, c'est de Brut, sur Twitter, qui vient de Julie de Funès, qui est, que vous allez pouvoir entendre, excusez ma souris, c'est une philosophe et autrice. Elle écrit plusieurs livres et elle parle de télétravail. Ça modifie notre rapport au travail, ça lui redonne certaines lettres de noblesse. Vous allez écouter sa capsule et on en parle un petit peu après.
Sens. Travailler pour vivre a un sens. Travailler pour nourrir ses enfants a un sens. Le télétravail modifie notre rapport au travail sur plusieurs points. Il déplace déjà le travail et en déplaçant le travail, il lui redonne sa juste place. C'est-à-dire que le télétravail s'inscrit dans la vie du foyer, il revient au centre du foyer, c'est-à-dire qu'il se domestique, il perd son prestige aristocratique totalement exclu de la vie. Et en se domestiquant, en venant au sein, en étant mêlé au foyer de la vie, on voit que la vie prend le dessus sur le travail. Le télétravail devient une activité comme une autre, au milieu des devoirs, au milieu d'autres activités. Et le travail reprend du sens dans ce sens-là, parce qu'il n'est qu'un moyen au service de la vie. Le gros piège du travail, à l'opposé du télétravail, c'est que le travail empiète sur la vie et devienne la finalité ultime de la vie. Pourquoi les gens préfèrent, la plupart des salariés préfèrent télétravailler, c'est parce que ça libère psychologiquement. Vous avez vu à quoi ressemblent vos bureaux comme les bureaux de beaucoup d'autres entreprises. Ce sont des open space, ce sont des blocs de verre, tout est visible. Et il suffit de se avoir visible pour agir comme si nous étions vus. Donc il y a une sorte de représentation permanente. On n'est pas comme au bureau, comme chez soi, bien sûr. Donc ça accapare l'esprit et c'est pour ça aussi qu'on travaille si j'en suis les études un peu moins bien au bureau qu'à la maison, c'est parce qu'une part de l'esprit est accaparée par cette représentation. Le télétravail agit comme un tamis, c'est-à-dire que seule la performance compte, on ne voit plus que le résultat. Vous savez, les gens qui font semblant avec des dossiers sous le bras.
Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un bon sujet de discussion ensemble à avoir. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes complètement en désaccord? Bref, je suis très intéressé de le savoir. Toujours sur le télétravail, hein, c'est un espèce de fil conducteur cet épisode-ci. Une étude d'Harvard conclut à une amélioration de 23% des performances des employés qui tiennent un journal de travail. Hein? Ça a l'air d'améliorer vos conditions, de noter ce que vous faites, de noter votre état d'âme, de noter vos tâches. On le dit souvent, notez, écrivez, c'est super important. Selon le récent article de Harvard Business School, réserver 15 minutes pour réfléchir à la fin de la journée de travail peut améliorer considérablement les performances, la productivité et l'impact pour les employés. Alors, il y a toutes sortes d'applications. Vous pouvez prendre tout simplement un livre, n'importe quoi. Là, vous pouvez prendre un cartable, des feuilles de notes. Vous pouvez prendre votre application de notes. Mais si vous voulez tenir un journal intime rapidement, puis débuter dans le domaine, vous avez un petit peu peur. Hein? Vous savez pas trop comment y aller. Je vous propose Reflectly. Et là, je fais un lien sur la première application que je vous présente cette semaine. Reflectly, c'est le moyen de tenir un journal personnel qui serait simple. En fait, il vous pose quelques questions sur votre état d'âme, sur toutes sortes d'affaires, et vous allez pouvoir, après ça, vérifier sur le temps votre tempérament, votre humeur, votre santé mentale dans ce journal, et vous pouvez peut-être aussi en profiter pour tenir votre journal au niveau de au niveau du travail, pourquoi pas. Reflectly, Reflectly. Il y a une version payante et une version gratuite. Dans le domaine des applications, j'en ai une super chouette que je suis en train d'essayer. Ça s'appelle Collect by WeTransfer. WeTransfer a racheté Paper. WeTransfer est en train de se multiplier en fait ces applications, de se diversifier. Hein. WeTransfer, c'est une application pour transférer des documents, des fichiers lourds. Et là, ils se diversifient dans d'autres types d'applications. Et une qui est vraiment intéressante, ça s'appelle Collect par WeTransfer. Ça permet de faire des collectes d'informations. Alors, ça peut être des liens, des textes, des images, ça peut être des articles, ça peut être toutes sortes de trucs qui vont créer des boards, ce qu'ils appellent des tableaux que vous pourrez partager après. Alors, je vous mets dans les notes d'émission le tableau que j'ai fait pour les notes de l'émission, justement, et vous allez pouvoir constater ce que ça fait. C'est assez graphique, c'est bien fait. Moi, j'aime vraiment ça. À suivre. On va voir. On continue, on va bientôt conclure avec deux actualités. La première, c'est que Twitter aimerait que vous lisiez les articles avant de les retweeter. En fait, c'est que le réseau social est en train de tester une fonctionnalité qui alerterait l'internaute avant qu'il retweete. Typiquement, ça pourrait aider à promouvoir les discussions informées sur les médias sociaux. Alors, ils testent ça sur présentement les Android, les téléphones Android aux États-Unis. Ça veut pas dire que habituellement les gens qui sont sur Android aux États-Unis sont mal informés, ceux qui testent sur cette plateforme-là. Et ils vont voir ce que ça va donner. En 2016, une étude de l'Université Columbia de l'Institut national de recherche scientifique des technologies numériques, l'INRIA, établissait que 59% de tous les articles partagés sur les réseaux sociaux n'avaient pas été ouverts au préalable, selon ce rapport du site de CNET. Bref, c'est un petit peu intéressant de savoir de quoi on parle et qu'on discute. Alors là, j'ai de la misère à faire mes liaisons. Bref, vous comprendrez un petit peu l'idée et vous comprendrez aussi pourquoi j'aime cette approche. On termine avec une petite réflexion que j'ai trouvée sur Internet. Je l'ai republiée, ça vient de Jean-Marie Guéhenno. Et la phrase se lit comme suit. On attend de l'État un zéro faute, de soi-même un zéro responsabilité et pour la société un zéro risque. C'est l'état d'esprit qui facilite l'arrivée des régimes autoritaires. La démocratie demande tolérance pour l'erreur, responsabilité personnelle et partage des risques. J'ai vraiment, vraiment aimé cette phrase et je vous la transfère dans les notes de l'émission. C'est ce qui met fin à cette éclectique, petite éclectique 76. J'aime ce chiffre. Et on se revoit rapidement. Je vais essayer de reprendre un rythme avec le déconfinement. L'humeur revient et le fait aussi que les enfants vont peut-être retourner à l'école ou en tous les cas qu'on va pouvoir les occuper à autre chose que d'être en arrière de leurs parents, en tout cas de moi ou de leur mère, ou enfin bref, vous comprenez, la vie devrait reprendre son rythme normal et on devrait reproduire des podcasts sur un rythme normal. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de mettre un 5 étoiles sur Twitter. Si vous avez aimé l'émission et que vous voudriez à propager la bonne nouvelle, vous pouvez partager ça dans votre réseau, médias sociaux. Et si vous voulez vraiment, vraiment faire partie des corps, là où je partage des trucs, même pendant la pandémie, j'ai partagé des trucs, allez sur Patreon, la plateforme Patreon, patreon.com/profduweb. Et vous allez avoir des abonnements qui vont vous donner droit à un podcast privatif, qui vont vous donner le droit à des vidéos, qui vont vous donner le droit aussi à des guides. Et tout dernièrement, j'en ai sorti un, le guide Technozen, que je vous recommande d'aller voir ou d'acheter. Allez, ciao, ciao, bye bye.